Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Salut Guillaume, merci d'être le premier invité de À côté de la plaque. Aujourd'hui, on va parler de tout sauf de bouffe. Est-ce que t'es prêt ?
Bah grave.
T'as pas trop l'habitude de cet exercice ?
Bon, j'ai quand même l'habitude de parler.
Guillaume, est-ce que t'es un lève-tôt, un jour où tu travailles pas ?
Ça dépend. En fait, le problème, c'est que ma relation au non-travail est particulière parce que j'ai toujours un truc à faire. mais généralement, quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment rien à faire, j'essaie de dormir un max parce qu'il faut que je rattrape, quoi.
Tu prends de l'avance, ouais. Est-ce que t'es quelqu'un de très famille ?
Je suis quelqu'un de pas très famille, mais en fait le vrai problème c'est juste que j'ai malheureusement pas trop de temps pour ma vie personnelle, c'est tout.
Donc ça se résume à ta femme et ton...
C'est ça, et mes chiens.
Guillaume, qu'est-ce qu'on ignore de toi ?
Alors ça c'est une très bonne question. plein de choses. Je pense que je laisse paraître certaines choses et puis que j'en planque d'autres.
C'est très très gentil.
On ignore sûrement de moi que je suis quelqu'un de plutôt très gentil, effectivement, parce que c'est un métier qui laissait pas trop la place à ce genre de choses. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une vraie différence entre le travail et la vie perso. J'ai toujours essayé de cutter les deux au maximum. Et les gens n'ont pas forcément besoin de tout connaître de moi.
Et ça, tu préfères vivre un peu caché, en tout cas ta personnalité ?
Ouais, ça me permet de me protéger, ça me permet de pas forcément dévoiler à des gens que je connais pas. C'est mon intimité à moi. Les gens connaissent le chef et connaissent peu Guillaume Sanchez, en fait.
Eh ben, on va remédier à ça. Guillaume, qu'est-ce qui t'agace dans la vie ?
Qu'est-ce qui m'agace dans la vie ? Les gens qui font rien, principalement. C'est-à-dire que j'aime pas les gens qui se laissent faire, j'aime pas les gens qui profitent parce qu'ils en ont l'occasion. Moi j'ai toujours aimé les gens qui se battent, les gens qui font des choses, les gens qui essaient, il y a rien qui m'énerve plus qu'un mec qui me dit non, je le fais pas parce que c'est pas possible.
Et toi, t'as été élevé comme ça ?
Moi, j'ai été élevé comme ça, effectivement, par mon père. C'est mon père qui m'a toujours dit que tout était possible. Il fallait juste s'en donner les moyens. Et c'est un des traceurs qui fait ma vie aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce qui te fait pleurer ?
Qu'est-ce qui me fait pleurer ? j'ai dû développer dans mon enfance une sorte d'ultra sensibilité. Il y a un truc qui m'émeut particulièrement, qui se passe constamment depuis plus d'une quinzaine d'années, et c'est régulièrement devant un film où il y a une sorte d'affection ou de signe d'affection familial envers quelqu'un.
Pourquoi ?
C'est une très bonne question, tu demanderas ça à mon psy.
Donc quand tu vois un lien fort familial entre un père et son fils ou un frère et une sœur, tu...
Alors, je chiale pas parce que je chiale pas. C'est comme ça. Mais ça fait monter des émotions. Et c'est le cas dans n'importe quel film, que ce soit un très gros navet ou un truc pas mal. Voilà.
Guillaume, est-ce que t'es féministe ?
Je pense être féministe. Alors tu le sais en fait 90% de ma vie c'est la cuisine et je trouve pas d'importance au sexe en fait en cuisine, c'est-à-dire que j'embauche pas des hommes ou des femmes, j'embauche des cuisiniers dans son genre le plus large Et donc je fais pas du tout en fait attention au sexe de la personne. J'embauche un professionnel qui va faire correctement les choses. Mais sinon j'ai toujours essayé de défendre au maximum la place de la femme dans les cuisines. La preuve étant que plus de 40% de mon équipe, même plus en fait, quasiment on est quasiment à 50% de mon équipe en fait chez Nezo sont des femmes.
Est-ce que il y a une phobie ou une angoisse qui te hante?
Le vide.
C'est vrai?
J'ai peur du vide, j'ai peur, enfin pas par la hauteur, mais j'ai peur quand il se passe rien. Et ça s'est largement confirmé pendant ce confinement, étant donné qu'au bout de 48 heures seul avec moi-même, c'était l'enfer. J'ai trouvé ça d'une d'une chiantise sans nom, et du coup j'ai dû trouver un moyen de m'occuper. Voilà, j'ai peur vraiment quand il se passe rien. Je suis pas très vacances. En fait, le problème c'est que je trouve pas de réel besoin en fait pendant ces vacances. Je crois même que j'ai pas forcément envie d'être en vacances. J'aime bien prendre du recul et m'éloigner de mon travail parce que ça me permet de souffler un peu. Mais de là à me poser les pieds en éventail dans le sable avec un mojito à la main, généralement mon bonheur dure 15 minutes.
Est-ce qu'il y a un trait de caractère dont tu aimerais te débarrasser?
C'est une très bonne question. Ouais, peut-être mon côté colérique. C'est peut-être le seul dont je suis pas très fier. J'ai une tendance, une fâcheuse tendance à partir dans les tours assez rapidement, alors que parfois ça nécessite pas de mettre autant d'énergie là-dedans quoi. Mais sinon, même mes défauts, je les aime bien, mis à part celui-là en fait.
Lesquels, par exemple?
Enfin, mon impatience. Je trouve que mon impatience, c'est mon plus gros défaut et ma plus grosse qualité, parce que c'est ce qui fait justement que ma vie avance, quoi. J'aime pas attendre, j'aime pas quand les choses prennent du temps. Voilà, j'aime bien forcer un peu le destin. Et c'est ce qui fait avancer ma vie depuis plus de 15 ans, quoi.
C'est clair. Est-ce que t'as une passion complètement inexplicable dont on se douterait pas de toi?
Est-ce que j'ai une passion complètement inexplicable? Alors inexplicable absolument pas, mais je suis un gros geek et généralement quand j'ai 3 heures à tuer, que je prends l'avion ou que je pars quelque part, je suis très console et jeux vidéo et c'est un gros flashback en arrière, tu vois. Je jouais beaucoup en fait aux jeux vidéo quand j'étais gosse, et c'est un truc qui me rassure quand j'en ai besoin et que j'ai le temps de le faire. Donc généralement dans les avions, je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu penses être une personne influençable?
Non. je pense pas être une personne influençable. J'essaie de réfléchir à si j'ai pu être influencé. Alors, je pense que je suis culturellement influencé par tout ce que je vois, mais je suis peu influençable parce que j'ai peu de rapport à ce que pensent les gens et ça impacte peu mon propos.
C'est plutôt toi qui vas influencer les autres.
Ouais, mais pas par volonté. C'est-à-dire que j'ai jamais forcé qui que ce soit à penser comme moi. Mais par contre, j'ai toujours défendu mes positions et ce en quoi je crois. C'est pour ça que chacune de mes prises de parole, en fait, elles sont pas faites en fait pour rentrer des choses dans le crâne des gens. Je dis des choses parce que je les pense. Si certaines personnes se retrouvent là-dedans, tant mieux. Et dans ces cas-là, effectivement, le propos arrive à se dupliquer. Mais j'ai pas ce côté gourou ou manipulateur relou quoi.
Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes humainement? Est-ce que tu t'aimes physiquement?
Je crois que j'ai appris à m'aimer. Ça a pris du temps. En fait, j'ai toujours été à côté. Tu vois, à côté du genre petit garçon, à côté du genre nouvel adolescent, à côté du genre nouvel adulte, parce que j'ai commencé très tôt le travail, parce que même avant ça, J'étais un ultra émotif qui avait besoin de créer dans un format qui permettait pas la création. Parce que quand j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'avais pas le physique d'un grand sportif. Parce que ma crise d'adolescence s'est passée au travail parce que j'ai commencé très tôt. Parce que cette vie que je mène aujourd'hui et dont je suis très fier m'a coupé finalement de des premières booms entre lycéens, des apéros entre potes et des vacances entre potes. Donc quoi qu'il arrive, en fait, tous les choix que j'ai fait depuis 15 ans m'ont coupé de la vie réelle et de ce à quoi ressemble une vie normale. Ce qui a toujours fait de moi quelqu'un d'à part, mais pas forcément positivement, tu vois, mais juste voilà. Ça fait un moment que j'ai plus rien à voir avec les gens de mon âge, et avec le monde dans lequel on vit. Donc j'ai appris à m'aimer comme ça, j'ai appris à trouver des vraies valeurs qui ne correspondent qu'à moi et à les défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, s'aimer dans ce métier, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi de se protéger de pas mal de choses, d'envoyer une assiette sans trembler, de pas avoir peur quand toute ton équipe te dit « Attention, il y a le guide Michelin en salle » alors que t'en sais rien du tout. De pas me démonter quand il y a un critique qui veut faire le malin dans un papier. Je pense également que des sites, tu vois, enfin, les clients ont carrément la parole depuis plus de 10 ans sur Internet. Ça a commencé par Twitter et là, plus récemment, avec des trucs comme TripAdvisor. Et je pense qu'il faut un petit peu d'amour propre pour être capable de garder ses convictions et de continuer à avancer malgré ça.
Guillaume, est-ce que t'es romantique?
Alors, ça, tout dépend ce que t'appelles romantique, en fait.
Bah, ta définition à toi. Hein.
Alors, dans ces cas-là, ma définition à moi, je pense être romantique à ma manière. le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. En fait, j'ai l'impression de faire des choses, parfois, qui ont du sens, mais le problème, c'est que, encore une fois, le monde dans lequel on vit a dessiné une sorte de romantisme, tu vois, ultra plan-plan, comme on voit dans les films, et moi je suis loin de ça. Mais je pense savoir être romantique parfois. Voilà.
Écoute, ça me va. Est-ce que t'es religieux?
Non. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout religieux, alors que j'aurais sûrement dû l'être. Pas du tout par la famille, mais par le compagnonnage. Le compagnonnage, quoi qu'il arrive, est un enseignement à forte influence religieuse. Voilà, ça a fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Ayant commencé très tôt, ça aurait pu être un petit lavage de cerveau, et puis en fait, pas du tout.
Est-ce que toi, les compagnons du devoir, t'avais quel âge?
J'allais avoir 14 ans.
Ah ouais. Et même à ce moment-là, tu t'es pas fait influencer par justement l'éducation religieuse que ça t'a donné?
Non. Mais je pense qu'en fait, inconsciemment, je me suis toujours dit, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit au-dessus, vu le bordel que c'est sur Terre. De quoi?
Tu t'es dit, je suis tout seul.
Ouais, mais je crois que j'ai toujours eu cette éducation-là. Mais là, pour le coup, encore une fois, ça vient de mon père. Ça vient de mon père qui m'a toujours dit que en soi, il y aurait personne pour m'aider dans la vie et que chacun des combats, il fallait que je les amorce moi. Donc ça a fortement joué sur ma non-croyance.
Et avec le recul, tu trouves que t'as été élevé à la dure ou que t'as été élevé justement?
Avec le recul, je pense que j'ai été élevé à la dure dans la forme, mais que le fond était extrêmement bienveillant. Voilà, il a comment dire, le monde a été avancé très très vite entre l'éducation d'enfant de mon père et le mien. C'était quand même radicalement différent, dans un monde radicalement opposé. Voilà, il a essayé de il a essayé de s'adapter, ils ont essayé de s'adapter avec des fossiles de l'ancien monde. Et c'est comme ça. Mais c'est finalement parce que j'ai le mix de ces deux éducations que aujourd'hui je suis capable de d'être droit dans mes bottes.
C'est-à-dire ces deux éducations?
À la fois mes parents qui ont essayé d'être des gens assez modernes dans leur époque, mais qui avaient été élevés eux dans un ancien temps. Donc tu vois, en fait, quoi qu'il arrive, t'as toujours ce mix des deux, ce que t'es devenu et ce que t'étais. Et je pense que l'éducation, en fait, c'est ça, c'est un mix de du nouvel adulte et de l'ancien enfant.
C'est clair. Guillaume, est-ce que t'es fashion? Ce mot.
Est-ce que je suis fashion? Alors si tu voyais la tenue vestimentaire d'aujourd'hui, ça répondrait directement à la question. Voilà, je crois que je porte un short à peu près 6 mois dans l'année, qui est principalement le même. Ma garde-robe c'est un t-shirt blanc et un jean noir. Je fais peu attention à ce que je porte, en fait. En fait, je m'en bats un peu les couilles. Je consomme peu de vêtements. Quand j'achète, j'essaie d'acheter intelligent et donc d'acheter de la qualité. Mais non, je suis pas du genre à faire du shopping constamment, sauf pour les baskets. Ça, pour le coup, j'ai une grosse addiction aux paires de baskets.
Ouais, lesquelles?
Tout ce qui a de la gueule. Mais malheureusement, principalement chez Nike. Ouais, non, c'est mon seul côté fashion et c'est mon seul petit plaisir quand je fais les magasins, en fait.
Okay. Bon, Guillaume, il faut quand même qu'on parle un petit peu de bouffe, quand même.
Ouais.
Est-ce que tu peux me décrire, un jour où tu as le temps et un jour où tu peux tout avoir, ton petit déjeuner idéal?
Ça fait 29 ans que je prends pas de petit-déj.
Bah, ton brunch idéal.
Le brunch idéal. Le matin, en fait, j'ai appris à pas manger parce que malheureusement, dès que je me lève, j'ai déjà le stress de la journée qui arrive. Donc, j'ai le ventre complètement noué, en fait, tous les matins. Le seul moment où j'ai appris à manger correctement le matin, c'est parce que je savais que la journée, j'avais pas du tout le temps de manger. Et du coup, je me suis mis à faire un petit déj quand j'habitais à Londres.
Ouais.
Et j'y ai pris goût parce que on était sur du sucré salé. Moi, je misais beaucoup plus sur le salé que sur le sucré, d'ailleurs. Et mon petit déj parfait, ça reste des haricots avec du bacon et un œuf au plat. Et c'est le seul moment où je kiffe prendre un petit déj.
Mais ça fait combien de temps que t'as pas mangé ça?
Je sais pas, j'ai ouvert Nezo il y a combien de temps?
Il y a
2 ans, mais ça fait 2 ans que j'ai pas mangé ça.
Parce que quand on te voit, on peut se dire, oh là là, mais il mange rien, mais en fait, t'es un bon mangeur, toi.
Je suis plutôt un bon mangeur. Le problème, c'est que j'ai jamais supporté de me forcer à manger quelque chose. Ouais. Et j'ai pas cette relation à la faim. C'est-à-dire que je mange. Si, je mange parce que j'ai faim. Mais ça, pour le coup, ça, je l'ai vécu quand j'ai perdu le goût et l'odorat suite à un accident de skate. Où du coup, en fait, je mangeais par besoin physiologique et pas par envie, parce que ça ne goûtait absolument rien. Si tu veux te représenter le truc, croque dans une éponge, c'est ce que j'ai vécu pendant un an.
Ça, tu me croques.
Ouais, si tu veux. Mais du coup, je ne me force pas. C'est-à-dire que quand je mange, c'est que c'est bon. Si je mange pas, c'est que c'est pas bon. Voilà, comme ça, au moins, les restaurateurs le savent. Quand je ne finis pas leur assiette, c'est que j'ai un point de vue assez tranché sur ce qu'ils ont fait.
C'est comme le critique gastronomique dans Ratatouille.
Exactement. Et si d'ailleurs, si t'analyses bien, j'ai le même physique.
Mais oui, c'est toi, en fait, du coup. Tu peux nous raconter quand t'as perdu le goût et l'odorat, parce que c'était très marquant.
Ça, c'est sûr que c'était très marquant. En fait, je suis parti en vacances à Los Angeles il y a 5-6 ans, un truc comme ça. C'était ma première fois à Los Angeles. Mon gros rêve, c'était de... Je skatais beaucoup à l'époque, donc mon gros rêve, c'était de faire du skate à Venice Beach, dans le parc. Mm-hmm. Bien sûr, j'avais pas pris de planche. Donc, j'attends que le skate shop juste en face ouvre. J'achète la première planche que je trouve. Donc, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, planche neuve, roue neuve, voilà. La géographie du skate park fait que c'est au bord de la plage. donc à 7h30 du mat à Los Angeles, le service de nettoyage du skatepark n'est pas passé et donc n'a pas enlevé le sable présent dans le skatepark. J'arrive comme une brute. Cette session de skate a duré, sans mentir, 48 secondes. J'arrive comme une brute et bam. Et je fais la plus grosse chute de ma vie en skate. J'atterris directement sur le derrière de la tête. Donc, t'as tout le skatepark qui fait genre « Ouh !» avec tout le monde qui me dit genre « Te relève pas, mec !»« Te relève pas !» Et j'essaie de me relever et c'est la première fois que mon corps m'a dit non. C'est-à-dire que malgré... Et j'ai eu beaucoup de chutes, j'ai fait beaucoup de BMX et beaucoup de skate dans ma vie. Malgré des fractures, malgré tout ce que tu veux, je me suis toujours relevé. Là, c'est la première fois que ma tête m'a dit et a donné le message à mes jambes. Genre non, tu restes à terre là. Et pour pas gâcher les vacances... En fait, quand tu fais un traumatisme crânien, tu vomis derrière. Pour pas gâcher les vacances des deux potes qui étaient avec moi, je me suis retenu de vomir. Et j'ai été couché 72 heures donc dans l'appart qu'on avait loué, en leur disant que ça allait, pour pas qu'ils me rapatrient en urgence et que eux du coup gâchent leurs vacances. On est rentré du coup 10 jours plus tard. J'ai foncé à la Riboisière à Paris. Ils m'ont fait un scanner et ils ont découvert un hématome sous-dural. Un hématome sous-dural, en fait, c'est un bleu. Sauf que là, pour le coup, c'était un bleu au cerveau. Suite à une micro-hémorragie qui a du coup complètement paralysé mon sens du goût et de l'odorat pendant un an.
Pendant un an ?
Ouais.
Donc pendant un an, tu t'alimentes pour survivre, quoi ?
Ben, j'ai perdu 10 kilos pour le coup à cette époque-là, que j'ai jamais réussi à récupérer. Mais c'est surtout que ça m'a donné une belle leçon de vie en fait sur la notion de manger et sur le plaisir en fait de manger. Et c'est pour ça que derrière je me suis tapé autant de restos, c'est pour ça que j'ai eu autant besoin de goûter un million de choses. Et je pense que c'est clairement le moment de ma carrière en fait où j'ai découvert la curiosité de découvrir des choses.
J'avais pas prévu ça comme dernière question, mais je vais changer. Est-ce que tu peux me raconter le jour où tu as mangé quelque chose et que ça avait du goût et que tu as senti que ton goût revenait?
Ouais. Je réfléchis à ce que j'ai trouvé dans mon frigo. Bah, c'est une très bonne. Putain, qu'est-ce que j'avais? je crois que j'ai senti le sel en fait. La première chose que j'ai senti, c'était un truc trop salé. Et ça m'a marqué parce que. Je sais plus ce que c'était. J'ai juste ce souvenir de trucs hyper salés. Et en fait, c'est assez marquant parce que c'est comme toi quand tu croques aujourd'hui dans une baguette sans sel, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est genre un truc hyper choquant parce que t'es pas du tout habitué. Et du coup, ça te paraît ultra fade et carrément dégueulasse. Bah moi, j'ai eu la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai découvert le très salé d'un coup. Et c'est la première fois en un an que je faisais la grimace quand je mettais quelque chose dans ma bouche. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait un truc. Et du coup, j'ai éclaté absolument tous les condiments, toutes les sauces, parce qu'il y avait franchement rien à manger dans mon frigo à ce moment-là de ma vie, sauf des pots de moutarde, de mayonnaise de un an auparavant. de ketchup, des chips, tu vois. Et j'ai tout éclaté. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le goût revient, il revient pas d'un coup, tu vois. Mais t'arrives à sentir des débuts de goût. Et voilà, c'est le moment où j'ai su que je sortais un petit peu de ce tunnel de l'enfer.
Parfait. Et ben, écoute, Guillaume, merci.
Et ben, merci à toi. Ce fut un véritable plaisir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.